Vous écoutez
RMC.
RMC.
Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
Tu vas voir, Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un
des limites, quoi.
Il y a rien d'extraordinaire.
Oh non, il y en a marre. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Génération After, spécial drôle de dame comme tous les lundis soirs, 2 heures consacrées au football étranger. Avec ce soir une drôle de dame qui a pris une fessée ce week-end, mais qui nous dira que ça fait toujours du bien de s'en prendre une. Bonsoir Paulo Breitner.
Nico, bonsoir tout le monde. Vaut mieux s'en prendre une fois 5 que 5 fois 1-0.
5-0 pour le Bayer Leverkusen face à l'Union de Berlin. On en parlera, tiens, avec une drôle de dame qui confirmera que c'est bon de se prendre une fessée de temps en temps. Et je ne parle pas de football. Bonsoir Fred Hermel.
Ah, j'étais sûr, c'était pour moi celle-là. Hola chicos, je suis pour les vertus de l'éducation à l'ancienne.
Ah, tu parles d'éducation?
Ah, tu parlais pas de ça toi?
Non.
Ah bon?
Avec une drôle de dame qui devra poser un genou à terre devant Allegri quand la Juve sera championne d'Europe et d'Italie. Bonsoir Johan Crochet.
Il y a assez peu de risques. Bonsoir à toutes et à tous.
Champion d'Europe?
Très peu de chance.
Ah bon, on va en parler aussi du tirage de la Juve qui va jouer le FC Nantes et puis avec une drôle de dame qui va pouvoir s'acheter une nouvelle maison sur l'île de Ré grâce à la prime qui va tomber dans la famille Laurence quand Arsenal sera champion d'Angleterre.
C'était un peu long mais
pas mal.
Tu vois ce que je veux dire mon cher Julien.
Tout à fait, tout à fait.
Salut, on prend une prime dans la famille si ça arrive ou pas?
On prend une prime. Il y a des primes en Angleterre. Il y a beaucoup de primes.
Même pas pour les salariés.
Pour les salariés, ouais. Il y a des bonus, tu sais, les fameux bonus de, à Noël ou enfin en
fin d'accord.
Non, mais pour des résultats. Parce qu'au Real, ça se fait plus aujourd'hui. Mais quand
les employés du club.
Quand le Real.
Je ne dis pas que Julien est employé d'Arsenal. Hein, je ne parle pas de lui. Hein.
Non, bien sûr. Mais quand le Real gagnait la Ligue des Champions, il y avait. Alors les joueurs avaient une prime, mais. Tous les employés, du plus haut au plus bas, touchaient une prime, Ligue des Champions. Ouais. Alors, ils ont arrêté, hein, mais ça se faisait beaucoup à l'époque.
Au Bayern, ça se fait partout. Chaque année.
Ouais, je
pense. Au Bayern, chaque année, Polo?
Quasiment chaque année, oui.
Tous les salariés du club.
Ouais, en fonction des résultats. Résultats financiers, je veux dire, pas spécialement sportifs.
Écoute, c'est intéressant. C'est une enquête qu'on devrait mener en France, en Ligue 1 également. Est-ce que c'est le cas?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de clubs français qui gagnent des champions. Donc,
non, mais certains ont des bilans financiers positifs.
Bien, c'était 2 mois de salaire. C'est
pas neutre. Quoi. Pas mal. Bon, ça marche aussi pour vous, les gars, en fonction de l'audience du lundi soir. On fera un point à mi-saison. Dans un instant, vos 3 points. D'abord, je dis bonsoir à Gilbert Bribois. Bonsoir, Gilbert.
Salut, les gars. Ce dont vous parlez, c'est la participation à l'entreprise. C'est un dispositif légal, en fait.
Fait.
Ah non, une prime si tu gagnes avec des champions. C'est,
ce que dit Polo, c'est
la semaine dernière, j'avais annoncé que l'Union allait se faire éclater par les Leverkusen, mais je devrais recevoir 500 boules, quoi.
500 boules,
Bah ouais.
Ah oui, 100 boules par but.
Voilà, exactement.
Gilbert, de quoi parle-t-on à partir de 22h?
Alors, on va revenir sur le tirage au sort, parce que Daniel est énervé par les réactions après le tirage au sort du Bayern face à Paris. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Florent Gautreau, lui, veut parler de Lyon. Il n'était pas là hier soir avec nous, et c'est un sujet qui l'intéresse particulièrement, la nouvelle défaite de Lyon. Et puis à 23h, Olivier Giroud, qui donc sera sur la liste de Didier Deschamps, c'est Stéphane Guy qui nous l'a révélé hier soir. Tout de même, est-ce que Deschamps est cohérent? Parce qu'on a retrouvé quelques déclarations pas si lointaine de Deschamps sur Giroud qui peuvent prêter à débat. Bon, on fera ce débat à 23h et puis on a depuis cet après-midi également la liste des Brésiliens pour la Coupe du Monde. On ira au Brésil pour avoir les différentes tendances et plus le reste de l'actu du jour évidemment au programme de 22h à minuit tout à l'heure.
Avec Daniel et Florent.
Et Florent Gautreau, exactement.
Exactement. Le hashtag RMC Live pour réagir sur Twitter, l'application RMC Sport Direct Studio pour vos commentaires et vous nous appelez au 3216 pour le rendez-vous habituel du lundi soir 20h45. Vos questions, vous, afteriens, aux 4 drôles de dames. Je rappelle également qu'en fin d'after, Daniel sera avec nous 21h45. Il jouera au sélectionneur et vous lui proposerez un joueur de vos championnats français qui est en ballotage, plus ou moins favorable ou défavorable avant l'annonce de la liste mercredi soir, que vous voulez voir absolument en équipe de France. Voilà, ce sera à partir de 21h45. Vos 3 points, les gars, je commence avec toi, Johan. 15 secondes, hein, je rappelle la règle.
On avait 3 chocs ce week-end en Italie, donc on va revenir sur le derby d'Italie entre l'Inter et la Juve. Perspective, évidemment, tirage au sort FC Nantes. On va revenir sur le derby de Rome, vous verrez, ça ira très très vite, parce que le match a été très très nul. Et enfin, on reviendra sur le choc entre le premier et le deuxième, l'Atalanta qui recevait le Napoli, et un Napoli qui continue de surfer sur la vague du Scudetto.
Polo.
Bon, évidemment, on va parler beaucoup des tirages des Coupes d'Europe, le PSG, Bayern, mais aussi un certain Bayern Leverkusen Monaco. Ce qui va être intéressant, on va changer un petit peu les habitudes. On va aller voir le choc entre deux promus, entre le Werder et Schalke, qui sont pas n'importe quel club en Allemagne. Et puis après, j'ai oublié, on s'intéressera à Niko Kovac, évidemment, le coach du VfL Wolfsburg.
Julien.
Deux gros matchs pour nous aussi hier, un derby de Londres, Chelsea contre Arsenal avec une très belle victoire d'Arsenal, Tottenham contre Liverpool qui était assez incroyable aussi au Tottenham Hotspur Stadium, et puis la première de Unai Emery avec Aston Villa qui détruit Manchester United. Good evening à tout le monde, et puis voilà.
Fredo.
Ça, c'est du tirage au sort pour les Espagnols. Le Real qui va affronter Liverpool, bien sûr, on va l'évoquer, mais aussi en barrage de Ligue Europa, le Barça qui va retrouver peut-être, s'il est encore au club, Cristiano Ronaldo. On parlera des adieux de Gérard Piqué et on s'interrogera sur la dégringolade qui continue à l'Atlético et sur l'avenir de Diego Pablo Simeone.
Voilà pour le programme des drôles de dames, les gars. Nous avons donc, nous connaissons donc les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Polo, ta Saint-Valentin va tomber à l'eau. Je suis sûr hyper attaché à cette soirée en plus.
Oui, oh bah oui.
Oui, bien sûr. Oui. Une fête américaine, peut-être.
Ah bah oui, non, mais ouais. J'adore en fait l'origine, en fait. Que ça devienne une fête, un truc festif me fait rigoler, quoi, en fait, c'est tout.
Bon, le 14 février, il y aura aussi PSG-Bayern, match aller voilà. De huitième de finale de Ligue des Champions. Comment réagit-on en Allemagne après ce tirage, Polo?
Très mal. Ah bon. En fait, pas face au PSG, mais comme quoi c'est un coup de casque sur le football bavarois et sur le football allemand en général, parce que le tirage en général n'a pas été favorable pour les clubs allemands. Dans le cas de PSG-Bayern, ben, très clairement, Nagelsmann a résumé ce que beaucoup de personnes pensent. Il dit on s'est coltiné le Barça et l'Inter en phase de groupe, et si des dieux du foot étaient encore là, ben, ils auraient pu nous récompenser un petit peu, et ben non, on va se taper le PSG. Et je crois que c'est très important de voir l'image qu'a le PSG à l'étranger, c'est-à-dire que quand on est de France, on se dit aïe aïe aïe, on peut se taper le Real, on peut se taper City, on peut se taper le Bayern, mais les clubs étrangers, à ma connaissance, n'ont pas forcément envie de rencontrer si tôt dans la compétition le PSG. D'autant plus que le Bayern a été éliminé deux fois de suite en quart de finale ces deux dernières saisons, donc si tu veux se faire sortir en huitième contre une bête noire, parce que je rappelle que le PSG a gagné plus souvent contre le Bayern que l'inverse, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont des bilans positifs contre le Bayern. Il y a évidemment Liverpool qui était, à mon point de vue, le pire des tirages quand on connaît l'historique entre ces deux clubs, et le PSG. Ben voilà, on rigole pas, parce qu'on se disait ben mince, si on avait eu un tour un peu plus sympathique, ben on aurait peut-être pu gagner du temps. Mais je voudrais ajouter un autre facteur qui me semble important, c'est que je crois que l'Allemagne va être le seul championnat qui va avoir une véritable trêve après la Coupe du Monde, et c'est pas du tout la même chose, je crois, en Italie. C'est pas là, évidemment.
T'as raison,
pas
en Angleterre. Ça reprend le 31 en Espagne, 31 décembre,
bah voilà, ben non. En Allemagne, on va reprendre fin janvier. Et c'est-à-dire, on va avoir un mois de pause. Et je sais pas dans quel sens ça va tourner pour les équipes, mais on peut penser peut-être que les équipes qui tournent bien en ce moment seront peut-être un peu fatiguées fin janvier ou en février. Et à l'inverse, les équipes qui vont pas bien ont la possibilité de rebooter tout depuis le début pour les clubs allemands. Donc je sais pas ce que ça va, mais c'est un paramètre qui me semble important.
Mais Polo, le fait qu'on puisse dégager autant de temps après une Coupe du Monde, c'est quoi? C'est le championnat 18. Ça devrait donner des idées à tout le monde quand même.
Mais moi, j'arrête pas de le dire. Ça fait des années que je suis pour un championnat 18. Ça a l'air de rien, mais 18 clubs au lieu de 20, ça fait 4 matchs.
C'est pas un projet chez vous, les gars, en Italie, en Angleterre, en France, ce sera le cas la saison prochaine.
Pas dans l'immédiat, mais ça a été évoqué pour la première fois, notamment après la non-qualification de l'Italie, comme une des solutions à envisager pour un resserrement de l'élite en Italie.
Julien, un peu.
Non, pas du tout. Mais après, nous, il faudrait que 14 clubs sur 20 votent en faveur, et c'est impossible, quoi. Il n'y a pas de petits clubs ou de moyens clubs qui voteraient pour une baisse du nombre de clubs en Première Ligue. C'est pas dans leur intérêt, ce que je comprends très bien. Hein. Si t'es un club comme Fulham, par exemple, qui fait le yo-yo ou Norwich, c'est pas dans ton intérêt que la Première Ligue descende de 20 à 18 clubs. Donc c'est normal que ça... Même s'ils le voulaient, même si les gros clubs le voulaient, ça pourrait jamais passer.
Les gars, votre avis également sur ce PSG-Bayern?
Je t'ai pas dit, moi.
Dis-moi.
On va poser la question, si c'était prévu en Espagne ou pas.
Ah non, tu as raison. Vas-y, je t'écoute, Fredo.
Bah non.
Pas prévu.
Non.
C'est bon, pas avancé.
Voilà, merci.
Merci Fredo.
Mais non, mais bon, je veux bien.
Les gars, marre
d'avoir un strapontin dans cette émission.
Non, tu rigoles ou quoi? T'es historique en plus.
Mais c'est l'humour.
Je ne me permettrai pas, je reste avec les anciens, moi, les éléphants quand même. Hein messieurs, je vous sollicite également Fred, Julien et Johan, ce duel PSG-Bayern. On sait que le PSG est imprévisible et capable de tout, du meilleur comme du pire. À l'heure actuelle, sur les forces en présence, hein, je ne me projette pas sur février, est-ce que vous estimez ce PSG ou ce Bayern nettement supérieur au PSG? Julien.
Nettement supérieur, non, pas nettement supérieur. Je pense que la verticalité du jeu du Bayern peut faire très mal au PSG, notamment dans les transitions défensives, parce que c'est le point faible de cette équipe du PSG. De toute façon, ils défendent à 7, enfin, ou à 8 avec Donnarumma. Mais donc, forcément, si ça se projette très vite vers l'avant chez l'adversaire, avec des très bons joueurs qui trouvent les espaces, qui jouent entre tes lignes, ça va être compliqué. Après, pour moi, le Bayern, je vois, même si le PSG, vous le savez, c'est mon club. J'ai du mal aujourd'hui à voir le PSG pouvoir éliminer ce Bayern sur deux matchs avec le retour à Munich. Et quand j'entends Luis Campos me dire c'est le bon moment pour jouer le Bayern, je crois qu'il a pas trop compris. Le match c'est pas maintenant. Hein. C'est pas le bon moment, c'est pas maintenant. Ouais. Le match c'est au mois de février, donc il peut se passer beaucoup de choses dans les deux sens d'ailleurs, hein, positif comme négatif. Paul en a parlé un petit peu, mais pour moi c'est le pire adversaire pour le PSG. J'aurais préféré jouer City même.
D'autant Polo qu'il aurait mieux fallu jouer le Bayern il y a deux mois en fait, hein, parce qu'on le rappelle, ça oui, tourne, c'est oui. Plus le Bayern qui faisait des nuls consécutivement qui perdent à Augsbourg. C'est fini ça.
Mais Juju a dit quelque chose de très juste. Moi, je sais pas ce que sera le Bayern au mois de février, je vais y arriver, parce que il est fort possible qu'on ait tout simplement la moitié de l'équipe qui est actuellement titulaire, qui ne le sera pas au mois de février. C'est-à-dire que Choupo-Moting, moi je veux bien l'histoire du neuf qui met, mais ça reste Choupo-Moting. Gnabry n'est théoriquement pas titulaire. Il y a Leroy Sané qui est là. Il y a Thomas Müller qui va revenir. Il y a Mané qui va théoriquement jouer en faux neuf. C'est Kingsley Coman qui joue pas, qui n'est pas titulaire.
Donc pour tu me dis qu'actuellement c'est fort, ce sera plus fort en février, logique.
Ah, mais moi je pense. C'est-à-dire voilà, le 11 titulaire. Ouais. Ensuite, il y a la question de l'animation. Et ça va être la grande question. Et la grande force du Bayern par rapport aux années précédentes, on n'en parle pas parce qu'on parle toujours avec, ça a été focalisé évidemment par le débat avec le départ de Lewandowski, mais c'est que défensivement parlant, ils sont beaucoup plus forts que les années précédentes. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'en fiche de savoir qui d'Upamecano, qui de Delirte, qui de Lucas Hernandez, même Pavard, que je lui dis, pour moi, c'est pas un défenseur central, même s'il le clame auprès de tout le monde et tous les médias. Je suis désolé, il fait son boulot en défense centrale. C'est-à-dire que c'est pas, évidemment, le trio parisien peut exploser n'importe quelle défense en Europe, ça c'est pas la question. Mais quand tu vois l'équilibre qu'a le Bayern en ce moment, c'est difficile de ne pas les donner favoris, même si encore une fois, on verra ce qui va se passer d'ici février.
Johan.
Moi je vois tout à fait le PSG capable de taper le Bayern. Évidemment qu'à l'heure actuelle, je vois le Bayern supérieur, pas nettement supérieur, mais supérieur. Par contre, défensivement, le Bayern, ils ont pris 2 buts contre Stuttgart, 2 buts contre Dortmund, 2 buts contre Pilsen, 2 buts contre Augsbourg. 2 buts contre le Hertha Berlin. Donc Berlin, Mayence, Pilsen, Augsbourg, c'est pas non plus des attaquants individuels.
Paris en a pris 3 contre 3 aussi, tu vois. Aussi.
Même si Bayern peut faire du mal, évidemment, au Paris Saint-Germain sur les transitions, comme l'a très bien expliqué Julien, je pense aussi que le PSG peut faire très mal au Bayern sur le plan offensif.
Sauf qu'ils n'en prennent pas contre l'Inter, ils n'en prennent pas contre le Barça, ils n'en prennent pas contre les gros clubs. Quoi. Il y a que le 2-2 contre Dortmund qui est un peu spécial, qui est complètement hallucinatoire, parce que le Bayern a dominé largement. Mais justement, on parle trop de l'attaque du Bayern et on ne parle pas assez des efforts faits.
Des progrès de certains, dont Upamecano également. On en parle tout à l'heure.
Moi, sincèrement, je pense que ça peut paraître impensif, mais sur deux matchs, pour moi, le Bayern est extrêmement favori. Sur un match, tu peux passer à côté d'un match, t'as une soirée de folie des trois devant, etc. Mais là, sur une finale de Ligue des Champions, le Bayern est un peu favori, mais pas tant que ça.
Il faut se rappeler que Paris passe, parce que Lewandowski, entre autres, n'est pas là. Je rappelle la saison... L'anomalie statistique. Qu'en finale, il y a l'illusion que Paris peut mieux faire. Mais au final, Polo, le Bayern est supérieur. Oui. Non, je parle de 2020.
Pour terminer ma réflexion, vas-y. Simplement. Non, le truc, c'est que, au-delà du fait d'avoir deux matchs et pas un, c'est la construction même de l'équipe du Bayern et du club qui fait qu'il y a un sérieux, qu'il y a une organisation dans le club et dans le jeu de l'équipe qu'il n'y a pas au PSG. C'est-à-dire qu'il y a des certitudes, des choses tellement éclaires, bien huilées, bien claires au Bayern et au PSG. On se pose toujours des questions. C'est-à-dire qu'il y a des débats au PSG avant chaque match, même les matchs de championnat. Alors que du côté du Bayern, Polo, on n'a pas beaucoup de.
Non.
On se pose pas de questions, quoi. Tu vois. Non.
Non, il y a eu. En fait, le seul débat qu'il y a eu, évidemment, c'est cette crise saison. Qu'il y a eu liée en début de saison avec le cas des Lewandowski et tout ça. Et à la rigueur, qui peut revenir aujourd'hui, parce que Choupo-Moting, c'est quand même un. Il joue en position 9 aujourd'hui par rapport à Mané, mais bon. Mais honnêtement, ils sont pas contents du tirage. Il faut voir les grimaces d'Oliver Kahn et choses comme ça. On sait très bien que le PSG, c'est jamais évident. Et
oui, puis, rencontre, Polo, encore une fois, au PSG, il n'y a plus trop de débat désormais, à part en charnière peut-être, le système éventuellement. Mais l'équipe, elle est connue, mon cher Fredo. Hein.
Non, mais le système.
Elle est connue, l'équipe.
Mais il y a des débats tout le temps. Sur un tel qui passe pas la balle à l'inter, sur le système. Le système, on sait jamais vraiment.
Bon, là, ça semble assez clair maintenant, le système. Non, il a abandonné sa 3-5-2. Là, on sait qu'il joue devant, on sait qu'il joue milieu de terrain, on sait qu'il joue en défense centrale. On connaît les
Vous allez me dire qu'aujourd'hui le PSG, au niveau de son fonctionnement, est une équipe où tout roule, où tout est clair.
C'est pas ce que je te dis. Non, je te dis juste aujourd'hui.
Mais tout le monde a des faiblesses.
Que Galtier aujourd'hui semble savoir quel 11 il veut aligner.
Il savait pas, par exemple, que c'était le but à l'extérieur. Tu vois,
c'est. Oula, Fredo.
Non, mais c'est un détail. Dans l'organisation d'un club, ce genre de détail. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est moi, c'est pas à Galtier de le savoir, mais que il y ait personne au sein du staff, au sein du club, qui ait pu communiquer à l'entraîneur cette donnée. Moi, ça me paraît hallucinant. Ça me paraît hallucinant. Je pense pas qu'au Bayern, un tel truc serait arrivé.
Bon, voilà pour PSG Bayern. Hein, je rappelle la date, le match aller au Parc. Le 14 février, le match retour, ce sera donc le 23. Finissons cette partie PSG Bayern avec Thomas Müller. Nouvelle vidéo, tradition à chaque fois qu'il affronte le PSG. Écoutez.
Bonjour, Bayern, Paris. Ah, two very good teams with very good players. Sadly. One cannot go to the next round. This time, no au revoir. Also, last time I had big respect for Paris. I'm looking forward to this very big duel in the next year. See you guys. Bye bye. A big game in football. Big game.
Un peu plus timide, hein, mon cher Polo, hein, qu'à la dernière fois. Hein.
Je
dit au revoir Paris, là, ben c'est. Je sors au revoir aujourd'hui. Un peu soufflé aussi, ouais.
C'est ça, vieilli, un peu hein. Soufflé, oui. Ben, tu sais qu'il y a des rumeurs comme quoi c'est pas gagné pour lui son départ à la Coupe du Monde. Hein. Il est déjà out pour les prochains matchs de Bundesliga. Hein, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Mais je vois pas trop l'utilité de ces genres de vidéos, moi. Donc,
si tu veux,
on n'apprend pas grand chose. Moi, j'apprends rien de ce qu'il dit. Si, il a un accent assez pourri comme moi en anglais, mais sinon, c'est, si tu veux, je vois pas trop à quoi ça sert. Mais c'est pas grave.
Bah, c'est rigolo quand t'envoies un message comme il avait fait avant le Barça à Lewandowski, un truc entre copains. Ça, ouais. Ça peut être rigolo, mais là, c'est vrai que c'est pas.
Ça me choque pas, moi.
C'est non, mais c'est pas nécessaire, en fait.
Puis l'homme est sympathique. Voilà pour PSG Bayern, les gars. Dans un instant, on va évoquer le Liverpool Real, notamment. Et puis vous me direz quelle est l'affiche qui vous excite le plus, les gars, dans ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, PSG Bayern et Real Liverpool à part. C'est les drôles dames sur RMC. Génération After à 20h17. On revient dans moins de 2 minutes. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Merci d'écouter RMC 20h20, Génération After, spécial Drôle de Dame, comme tous les lundis soirs, avec Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel et Johan Crochet. Je vous rappelle qu'à 20h45, vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser vos questions aux Drôles de Dame. Alors, autre affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, Liverpool-Real, 21 février, retour le 15 mars. C'est la finale 2022, je le rappelle, au Stade de France. Julien, je me tourne vers toi. Comment on commente cette affiche chez toi en Angleterre?
On l'avait senti venir, hein. Tu sais, celle-là était gros comme une maison, que le destin allait encore les mettre ensemble. C'est la revanche de la revanche de la revanche de la revanche. Donc le rematch du rematch du rematch du rematch, puisqu'ils se sont affrontés tellement souvent ces dernières années. La finale, tu l'as dit, bien sûr, la finale de 2018 avant, le quart de finale de il y a 2 saisons maintenant, ou 3 saisons. Ça tourne souvent, même quasiment tout le temps en faveur du Real. Ce sera encore une autre occasion pour cette équipe du Liverpool. Je sais pas ce que Fredo en pense. Je pense que c'était vraiment le club que chacun voulait éviter. Si t'avais demandé au Real avant ou au Liverpool, c'était voilà, on va pas rejouer encore contre eux. Maintenant, on sait pas, au mois de février, moi je pense que cette équipe de Liverpool va monter en puissance maintenant, qu'elle va progresser, qu'elle arrivera en février en meilleure forme qu'elle est depuis le début de la saison. Je l'espère pour elle en tout cas. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est un tel air de déjà vu. Ils se connaissent tellement bien. Ça va être assez fascinant, encore une fois, à voir et à analyser.
Johan.
Pourtant, ils ne se rencontrent pas assez, selon Florentino Pérez, qui justifie ça pour la Super League. Oui.
Ouais, oui, mais bon.
Oui, voilà, bon, après, ça, c'est.
Il en veut plus. Il veut plus de Liverpool Real, exactement.
8 par an, ouais.
Ouais. Exactement, en fait, 8 par an, exactement.
Ce que disait Julien était très juste, et c'est le sentiment qu'il y a à Madrid aujourd'hui, c'est que le Liverpool du mois de janvier, du mois de février, mars, c'est pas celui de maintenant. Donc, et ça les énerve parce que c'est comme pour le Bayern, tu termines premier du groupe et tu tapes un monstre européen. Donc, et d'ailleurs, la presse espagnole parle de la bomba. Voilà, c'est une bomba, la bomba del bombo, voilà, la bomba parce qu'un Real Madrid Liverpool, et en plus on considère que c'est une sorte de gâchis quand même, parce qu'un Real Madrid Liverpool, ça joue pas, c'est pour le printemps, c'est pas pour l'hiver, quoi. Donc ça sera intéressant de voir du côté du Real comment on va aborder ce match. Alors avec une, je sais pas combien il y a de joueurs de Liverpool qui jouent en le mondial aussi, parce que voilà, ça sera intéressant de comparer combien de joueurs du Real jouent le
Qu'est-ce
mondial.
Qu'est-ce que tu veux dire
aussi.
Par là?
Non, mais c'est-à-dire que il y a pas de trêve en Espagne, hein, pour parler de l'Allemagne, c'est-à-dire que dès le 31 décembre ça reprend. Donc en plus juste derrière le Real va partir jouer la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, c'est une semaine au mois de janvier, mi-janvier, où t'es loin de chez toi, où tu voilà, enfin, je veux dire, il y aura pas beaucoup de repos, donc faut voir dans quel état physique va arriver cette équipe. Au Real, alors si on compare par rapport à la saison dernière, le Real a beaucoup plus d'alternatives cette saison que l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, il n'y avait pas Rudiger, il n'y avait pas Tchouaméni qui est aujourd'hui incontournable dans le 11 titulaire du Real Madrid. Bon, ils ont perdu Casemiro, mais Camavinga, il a pris un an au Real. Ça y est, maintenant c'est
Vinicius a aussi pris un an.
Vinicius, surtout Rodrigo. Rodrigo, il est devenu essentiel.
Valverde en grande forme.
Valverde, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de certitudes côté Real Madrid qu'au mois de mai lors de la finale. Mais après, sur deux matchs, après le retour à Bernabéu, automatiquement, on l'a vu l'an dernier contre Paris, c'est pas rien. Hein. Je sais pas si on en parle en Angleterre du fait que ça reste quand même important de jouer le match retour à la maison, surtout avec cette règle du but à l'extérieur qui compte plus double, quoi.
Ouais, après il y a plus le côté psychologique dont on parle beaucoup en Angleterre, c'est-à-dire qu'à un moment, je pense que même si les joueurs changent sur les dernières années, tu vois, il y aura pas Sergio Ramos contre Mo Salah, ce genre de choses là, mais c'est vrai que psychologiquement, tu sais très bien que t'as perdu contre eux, que tu perds toujours contre eux, ou en tout cas qu'ils t'éliminent à chaque fois. T'as quand même perdu deux finales de Ligue des Champions contre eux. C'est pas n'importe quoi.
Dans les 5 dernières années, hein, tu vois.
Ouais. Et donc c'est un peu ça dont sont le point d'interrogation côté anglais. C'est est-ce qu'à un moment, est-ce que ces joueurs de Liverpool là doivent passer au-delà du blocage un petit peu psychologique qu'ils ont contre cette équipe là, qui fait que d'être meilleur qu'eux, en fait. Donc ce sera vraiment intéressant de voir comment Klopp va essayer de changer ça et d'avoir une approche un petit peu différente, et on verra bien. Il y a deux saisons sous Zizou, ou trois saisons, c'est vrai que les choses avaient été un petit peu différentes peut-être, mais sur les deux finales il y a pas photo finalement, même si la dernière finale c'est Courtois qui sort un énorme match, et ça tourne pas en faveur de Liverpool non plus. Donc moi je pense que ça peut vraiment être intéressant. Je pense que ça peut être du 50-45 pour le Real, mais pas forcément beaucoup plus quand on arrivera au mois de février.
Autre affiche, les gars, vous me dites, hein, celle qui vous plaît le plus, Leipzig Manchester City, pas de match a priori, mon cher Polo?
Malheureusement, c'est sans doute le plus mauvais tirage pour Leipzig, qui est dans une forme depuis quelques semaines assez extraordinaire. Et je me doutais bien que l'Atletico allait tirer un club anglais, et j'espérais plutôt Chelsea, voire Tottenham, évidemment. Mais City, c'est compliqué. Ils peuvent les embêter. De là à se qualifier sur deux matchs, je n'y crois pas, malheureusement.
Tottenham, justement. Le Milan pour Tottenham, mon cher Johan. C'est une belle affiche, plus qu'indécise.
Ça, c'est celle qui m'intéresse le plus.
Pourquoi?
Opposition de style déjà, retour de Conte en Italie. Même si ça aurait été encore plus sympa de le retrouver contre l'Inter. Et puis moi, j'ai envie de voir ce que va donner ce Milan-là dans les rencontres qu'il ne connaît pas depuis très longtemps. Les rencontres à élimination directe en Coupe d'Europe, à des moments importants, en Ligue des Champions évidemment surtout. J'ai envie de voir si ce Milan-là a vraiment progressé. J'ai envie de voir aussi d'ici au 15 février s'il y a des recrues de cette année qui auront réussi à prendre plus de temps de jeu qu'actuellement, parce qu'aujourd'hui le Milan joue avec l'équipe de l'année dernière et que c'est parfois un peu juste, surtout avec le rythme qu'on a eu depuis le début de la saison. Donc c'est une rencontre qui me plaît énormément. Évidemment, en Italie, on va beaucoup parler de Conte, on va énormément parler de Conte, on va beaucoup parler de Perisic aussi, qui est à l'Inter. On va beaucoup insister sur le rôle de Kulusevski, dont on parle avec Julien depuis un petit moment, et on voit que dès qu'il revient, il se passe quand même des choses. Donc, et puis il y a aussi les histoires entre Tottenham et Milan, entre Gattuso et Joe Jordan. Ça, c'est l'ancien adjoint.
Ouais, c'est fait lors du dernier match.
Ouais, c'est
Joe
ça.
Jordan, l'adjoint de la, Red Nap, ouais.
La grosse prise de tête, tête contre tête, etc. Donc, il y a pas mal de choses à écrire. Et moi, surtout côté Milan, j'ai envie de voir si maintenant ils sont au niveau de ce genre de match-là.
Julien, pourquoi t'intéresse toi cette affiche?
Pour toutes les raisons que Yo vient de donner, parce que je pense que c'est très ouvert, vraiment, et que je pense que d'ici là, Heung-Min Son sera rétabli. Il y aura, on espère, Richarlison et Kulusevski aussi. Peut-être que les deux clubs se seront renforcés au mois de janvier aussi. Et tu vois, ça pourrait être un petit peu différent. Mais je pense que ça va être énorme de voir Conte de retour à Milan. Moi, j'ai envie de voir Harry Kane contre Kalulu et Tomori, par exemple, si c'est le cas. J'ai envie de voir Giroud qui va retrouver Tottenham, contre qui il a souvent était très bon, souvent marqué quand il était en première ligue, que ce soit avec Arsenal ou avec Chelsea. Donc voilà, un peu partout, il y a plein de choses qui seront super intéressantes à voir. Donc non, c'est vraiment pas mal celui-là.
Polo, est-ce que tu vois l'Eintracht Francfort poser des problèmes au Napoli?
C'est une belle affiche. Écoute, ça.
Très belle affiche.
J'ai commencé mon travail sur le Napoli parce que là, j'ai regardé juste avant de commencer l'émission le match retour entre Liverpool et Naples. Sur le papier, non, Francfort n'est pas le favori de cette compétition parce que le Napoli en ce moment est sur un petit nuage, etc. Maintenant, moi, tu sais, je dis toujours Francfort. On n'arrête pas de me dire c'est un bon tirage. Francfort, c'est un bon tirage. Francfort. Francfort n'était pas le favori de l'Europa League l'année dernière. Ils ont battu quelques équipes. On leur a dit, on nous a fait comprendre que c'était très bien de tomber contre eux en Ligue des Champions, ben je sais pas, Marseille est à la maison jusqu'à preuve du contraire. Donc le Sporting a été battu. C'est une équipe de coups et de coupes. Et moi j'adore Oliver Glasner, ce qu'il fait, qu'on considère en Allemagne comme un coach un peu conservateur, mais en fait tu te rends compte qu'il travaille d'une façon très minutieuse sur beaucoup de sujets et qu'il prend des risques parfois. Donc encore une fois, je sais pas comment sera Francfort au mois de février. Je considère qu'à l'instant T, évidemment, Naples est le favori, mais sur je sais pas ce qui va se passer à l'aller, et ça se trouve ça va jouer au retour, et Francfort est une équipe qui marque beaucoup de points à l'extérieur, qui va souvent se qualifier à l'extérieur. Donc moi j'attends un petit exploit de Francfort.
Dernière affiche, les gars, Dortmund-Chelsea, est-ce que vous la considérez ouverte cette confrontation?
Ah oui, non. Ah oui,
plutôt ouverte.
C'est les historiques déjà.
Chelsea sont nuls de toute façon, donc ma théorie c'est que d'ici à février le Chelsea de Potter se sera amélioré énormément, que le Dortmund de Terzic aura sûrement explosé d'ici là aussi. De toute façon, il y a toujours une part de drame. Et donc, Chelsea devrait normalement s'imposer et tout ça. Mais encore une fois, ça peut être tout l'inverse. Ça peut être Chelsea qui explose et le Dortmund de Terzic qui gagne un petit peu en constance et qui continue à être bon et même à être meilleur. Mais ouais, ça va être. Je pense qu'encore une fois, hein, ça peut être assez fascinant selon comment les prochaines semaines vont tourner.
Vous voyez ma décadence en direct là. Moi, je peux parler que d'un match.
Eh oui, frérot, désolé. Désolé.
Eh ouais.
De toute façon, t'es en vacances à partir de février.
Oh, c'est possible, oui, tu sais. Oui, oui. Ah, bah non, mais moi, je suis un mec du jeudi maintenant.
Eh bien justement, on va parler du jeudi dans un instant. On va parler de Monaco contre le Bayer Leverkusen et de Nantes. Est-ce que Nantes a une infime chance de passer face à la Juve? J'attends l'expertise, l'éclairage de Yoann Crochet dans un instant, dans Génération After spécial. Drôle de dame, bien sûr, messieurs. Puis, à partir de 20h45, vos appels au 32-16 pour poser vos questions à Fred Hamel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Yoann Crochet. Restez avec nous, RMC. Il est 20h30. À tout de suite.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Paulo Breitner, Julien Laurence, Fred Hermel et Yoann Crochet, on est ensemble jusqu'à 22h, bien sûr. Dans 10 minutes, ce sera votre moment. Vous, auditeurs de l'After, des drôles de dames, posez vos questions au 32-16. Elles vous répondront volontiers. Les directs, avant de parler de la Ligue Europa et de ce Juve Nantes qu'on attend, les directs, c'est notamment du handball avec l'Euro de handball. Et c'est Nico Polarski qui est sur place. France-Roumanie, c'est le tour préliminaire. Salut Nico.
Salut Génération After, salut à toutes et à tous. Oui, deuxième match pour l'équipe de France dans ce tour préliminaire. les Bleus qui se sont imposés il y a deux jours de 10 buts contre la Macédoine. Le niveau monte hein, ce soir puisque c'est la Roumanie face aux Bleus, une très bonne équipe de ce championnat d'Europe. Match important pour les Bleus, c'est tout simplement le match de la qualif pour le tour principal. Et vous savez qu'au handball, les formules sont un peu complexes, mais au tour principal, tu conserves les points que tu as pris face aux équipes qui se qualifient avec toi. C'est-à-dire que si tu bats la Roumanie ce soir et que la Roumanie se qualifie, tu auras deux points, les deux points de la victoire acquis ce soir au tour principal. Donc c'est très important de remporter tous ces matchs. 5 minutes de jeu dans ce début de partie, 3-1 pour les Bleus qui sont bien entrés dans ce match et qui sont très agressifs en défense.
Et on suivra également à partir de 21h Rayo Vallecano, Real Madrid, Fredo, évidemment, on le savait, pas de Benzema. Pas de Benzema, c'était annoncé Rodrigo, hein, la composition devant, Vinicius à gauche, Asensio à droite. Ouais. Il est blessé ou pas Benzema?
Non,
ou alors il se moque un petit peu tout le monde.
Non, il se moque pas, il est pas blessé.
Il a vraiment pas envie de jouer avant le mondial.
Bah, c'est que il a une sensation, il a pas de très bonne sensation par rapport à sa cuisse, c'est que il a toujours cette fatigue musculaire. Voilà, au sein du staff, moi j'ai encore parlé aujourd'hui avec les gens du staff. Non, il n'y a pas de problème majeur. Simplement,
il y a. Ouais, d'accord, s'il n'y a pas le mondial, Fredo, je te coupe, désolé. Il joue ce soir.
Ah, je pense, oui.
Voilà. Bon.
Bah, là, c'est mon avis personnel. Et c'est l'avis qu'il y a aussi à Madrid.
Ah.
Bien sûr. Mais la même manière que Messi, pareil, il joue pas. Il n'a pas joué ce week-end.
Il n'a plus joué ces derniers temps, mais voilà. Bon,
oui, mais là, Benzema, on sent qu'il a eu une blessure quand même, hein, qu'il a éloigné des terrains.
Fatigue musculaire.
Ça fait 9 matchs manqués depuis le début de la saison. C'est beaucoup. Il n'a joué que 40% des matchs possibles. Donc, on sent bien que Benzema, aujourd'hui, est un peu fatigué et qu'il y a un risque de blessure si jamais il force. Donc, il ne force pas.
Bon. Mais ça agace pas au Real, en tout cas.
Tout petit peu. Mais Benzema, c'est un tout petit peu chez certaines personnes, mais les gens comprennent au sein du club cette précaution, cette peut-être excès de précaution, mais au nom de tout ce qu'il a fait au Real, pour qui il est, voilà, ça fait pas beaucoup de bruit non plus. Hein.
Bon, Tchouaméni, un titulaire, hein, comme Fernand Mendy. On parlera de la liste de l'équipe de France tout à l'heure, messieurs. La Ligue Europa, le gros morceau pour Nantes, mon cher Johan, la Juve. Match aller le 16 février à Turin, retour le 23 à la Beaujoire. Dernier duel, les gars, entre ces deux équipes en Coupe d'Europe.
96.
Bien joué, Johan et Julien. 17 avril 96. Demi-finale de Ligue des Champions, rien que ça. 3-0 pour la Juve à l'aller. Non, qu'est-ce que je raconte? 2-0 pour la Juve à l'aller.
2-0 pour la Juve. Avec l'arbitrage italien, quoi, on va dire, hein, Johan.
Je vois pas de quoi tu parles.
Johan n'était pas né, je crois.
La grande époque.
T'étais né quand même?
Ouais, moi.
Victoire 3-2 à la Beaujoire.
Ouais.
Franck Renou qui marque à la 83e, la Beaujoire en liesse, en espérant ce quatrième but finalement qui ne vient pas. Qualification de la Juve. Johan, est-ce une mission impossible, vraiment impossible pour le FC Nantes?
Bon, impossible, non. Extrêmement difficile, oui, évidemment, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que Massimiliano Allegri pourra compter sur des joueurs qui n'ont plus la Coupe du Monde en tête. Et là, évidemment, je pense à Di Maria, Paredes et Pogba. Qui depuis le début de la saison n'ont que la Coupe du Monde en tête et ça se voit clairement. Ça s'est vu aussi dans certaines décisions, je pense à Paul Pogba. Mine de rien, c'est quand même trois joueurs qui peuvent aussi amener une différence claire sur le terrain. Deuxième chose, je pense qu'il y a quand même une question d'orgueil aussi du côté de la Juve qui va se mettre en place. Parce que ce qu'ils ont vécu en Ligue des Champions cette année, la réaction de leurs supporters, l'humiliation médiatique, ça n'est pas accepté. Ça n'est pas acceptable quand on a la Juve de vivre des moments comme ça, surtout dans un groupe où tu n'étais pas non plus avec le Bayern et le Real, hein, donc il faut se calmer aussi. Je pense que en question jeu, on ne va pas atteindre des sommets de football champagne, hein, avec les deux équipes, pas seulement avec Massimiliano Allegri. Lui, il ne changera pas, donc là-dessus, ne comptez aucune évolution particulière dans l'approche des rencontres. Ce qui va faire la différence pour la Juve, c'est les individualités, notamment les individualités offensives. N'oublions pas que Chiesa a 20 minutes d'autonomie en ce moment, que mi-février, il aura peut-être 70 minutes, et que ça va compter. Parce que Chiesa, en termes de détonateur sur le côté, c'est vraiment quelque chose. On connaît, vous savez, mon appétence pour ce type de profil aujourd'hui dans le football et dans l'évolution des ailiers qui font la différence et qui gagnent des 1 contre 1, c'est très important. La Juve n'en avait pas trop depuis le début de la saison. Donc il y a quand même pas mal de facteurs qui me font dire que la Juve ne peut aller qu'en s'améliorant. En même temps, ce serait dur d'être encore pire que ce qu'on a vu en début de saison. Il y a aussi le match qu'on a vu contre l'Inter ce week-end, qui est aussi un témoin, c'est-à-dire quand c'était
victoire 2-0.
Voilà, victoire 2-0. La première mi-temps catastrophique de la Juve. Par contre, quand elle réussit à se libérer, vraiment, on a des joueurs qui jouent beaucoup plus relâchés, avec une volonté d'aller vers l'avant, qui n'est, je pense pas, inspiré par leur entraîneur, mais plus une quelque chose qu'ils ont en eux.
Parce tu que veux rien lui reconnaître. Hein.
Non, mais je suis désolé, des joueurs comme Kostic, comme Chiesa quand ils rentrent, comme
ils, oui, ils sont la qualité naturelle, quoi.
Voilà, faut
pas leur élan personnel.
Faut pas me faire croire qu'ils kiffent défendre pendant 50 minutes. Ouais, quoi. Mais... c'est pas possible. Donc, et je pense aussi à Vlahovic qui est blessé, puis Belgi, il faudra voir comment ça va évoluer aussi. Mais,
ouais, bon, c'est trop.
Mais donc, il y a quand même beaucoup de choses qui. Il y a une dernière chose, c'est. Là, j'ai parlé de retour des stars. Le problème, c'est qu'actuellement, ceux qui portent la Juve, c'est pas les stars.
Ouais.
C'est les jeunes. Quelle sera leur place à ce moment-là de la saison? Est-ce que ça va créer des crispations, pas seulement dans le vestiaire, mais aussi autour de la Juve? Parce que les supporters en veulent à Allegri, ils en veulent à Pogba, ils en veulent à Di Maria, ils en veulent un peu à tout le monde, et ils adorent les jeunes. Donc attention aussi au côté un peu ambiance difficile qu'il peut y avoir dans
le vestiaire. Il n'y a pas une chance pendante que la Juve se dise on doit faire absolument top 4 en Serie A, on bazarde la Ligue Europa? Ça peut exister, ça?
Je vais te dire que ça peut exister parce que ça me semble possible, mais que s'ils font ça, ils vont s'attendre à une réaction des supporters extrêmement dure. Et je pense que c'est vraiment pas dans leur intérêt, y compris pour se préparer à la phase retour en Serie A.
Polo, Bayer Leverkusen, Monaco, si c'est le Bayer qui a atomisé ton Union de Berlin ce week-end, c'est plus la même adversité.
Oui, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur cette rencontre. C'est surtout l'Union qui a donné la rencontre, comme l'a dit le coach Urs Fischer. Quand on joue comme des gamins, faut pas s'étonner. Non, il n'y a pas aujourd'hui d'effet de Xabi Alonso depuis son arrivée. C'est 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Ils sont qualifiés pour l'Europa League via ce que j'ai dit souvent, une qualification par le bas, parce que c'est un peu grâce à l'Atlético que Leverkusen est encore là. Mais j'ai parlé tout à l'heure du calendrier, mais il y a un autre facteur qui me semble très très important, c'est qu'il y a un joueur qui va revenir à Leverkusen. C'est un petit prodige, il s'appelle Florian Wirtz. Et Wirtz, il sera là en février. Il est d'ailleurs peut-être prévu pour la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Donc ça va changer beaucoup de choses et ça pose énormément de questions. Sur le vrai niveau de Leverkusen, mais aussi le schéma de jeu qu'on va utiliser, qui va utiliser Xabi Alonso, parce que là, vous avez un 10 à l'ancienne qui est arrivé. Donc, ça fait Diaby et Chic. Donc, qu'est-ce que tu fais du Tsoledoy? Est-ce que tu passes dans une défense à 4? Donc, quand je disais qu'avec ce calendrier et avec cette trêve hivernale en Allemagne, on est vraiment pouvoir rebooter différentes équipes, eh ben, on va affronter Monaco, qui, à mon avis, s'ils s'affrontaient la semaine prochaine, je vous dirais que Monaco est favori. Au mois de février, je sais pas du tout ce que va donner Leverkusen. Et il y a bien un moment où Leverkusen va se réveiller. Donc, ça a commencé peut-être ce week-end. En milieu de semaine, là, ils ont derby contre Cologne. Ils peuvent finir sur une très bonne note le week-end prochain. Et on voit ce que ça fait au mois de février. Mais moi, j'oublie pas que Leverkusen et Monaco, s'ils sont en forme, sont derrière des gros, donc Juve, Manchester United, le Barça, et puis j'en ai oublié un, et puis Arsenal, qui est déjà qualifié pour les huitièmes. C'est peut-être deux des équipes qui sont les premiers des outsiders dans cette compétition. Il y a peut-être un truc à faire. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est très équilibré. J'ai vu plusieurs fois Monaco. Je suis pas emballé plus que ça. Mais comme j'étais pas emballé de Monaco de sous Niko Kovac, hein, donc je pense que ça va être très très équilibré. Mais je pense que le facteur Wirtz risque de changer beaucoup de choses.
Bon, un des gros tombera dès les barrages, hein, soit le Barça, soit United, hein, qui s'affrontent bien sûr. Messieurs, c'est l'heure de la minute de Fred Hermel. Envoie la musique, Polo.
Juan Manuel Serrat.
Je crois que c'était générique d'une série des années 80, moi, américaine.
Grand chanteur catalan, qui chante en espagnol et en catalan, et grand supporter du Barça. C'est d'ailleurs lui qui, le soir de la grande fête du centenaire du Barça en 1998, avait chanté l'hymne du Barça, seul, au milieu de la pelouse, dans le Camp Nou. C'est un immense poète, un immense chanteur. Bah oui, pour un immense joueur qui est parti, et c'était son adieu samedi soir. Gérard Piqué est parti. Alors, pour une fois en Espagne, et c'est tellement rare, un grand joueur quitte son club par la grande porte. Parce qu'on en a beaucoup d'exemples, hein, dans le championnat espagnol, d'immenses joueurs qui sont partis par la porte de derrière, notamment Real, hein, Casillas, Raúl, etc. Là, au moins, au Barça, ils ont bien fait ça. Aussi parce que Piqué, il a su que c'était le moment de partir. Mais comme il le dit, c'est pour mieux revenir. Parce que personne ne doute que Gérard Piqué est déjà en train de faire sa campagne pour être le prochain président du FC Barcelone. Donc le joueur est parti, mais le dirigeant reviendra. Il ne faut pas oublier que son grand-père, qui s'appelait Amador Bernabéu, ça ne s'invente pas, était vice-président historique du FC Barcelone. Il a ce club dans son sang. Il a été très classe. Il a dit une jolie phrase pour expliquer aux fans que bah oui, il fallait qu'il parte. Il a dit quand tu grandis, tu te rends compte que qu'aimer, c'est laisser partir. Donc laissez-moi partir.
Magnifique.
Et voilà. Et donc Gérard Piqué est parti sous les applaudissements, mais il reviendra avec les votes des socios.
Si vous pouviez quitter la Coupe Davis par la grande porte, ce serait bien aussi, mon cher Fredo.
Il y a encore une Coupe Davis ?
Voilà, justement. Il l'a tué. Merci Fredo pour ta minute. Dans un instant, dans Génération After, les gars, les auditeurs vont vous poser des questions. Appelez-nous 3216 pour poser vos questions à Fred Hamel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain. Génération After sur RMC, merci d'être avec nous 20h49 avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel et Johan Crochet. Avant de donner la parole à nos auditeurs, les directs d'abord, le handball, le tour préliminaire de l'Euro, Roumanie-France, Nico Paul Orsi.
Et comme prévu, il est très serré ce match macédoine à Skopje. Waouh, le shoot de loin d'Orlan Canor pour son premier ballon en attaque. La shooteuse qui joue d'ailleurs en Roumanie, hein, à Bucarest, elle arrive lancée sur deux appuis. Elle vient trouver le coin long de la gardienne roumaine. Plus deux pour la France, 9 à 7. Il reste 12 minutes dans cette première mi-temps. C'est vraiment, vraiment un bon match de hand. On sait que l'Euro, c'est la compétition la plus difficile à remporter au handball. Tout va être difficile pour l'équipe de France, elles veulent remporter la médaille d'or.
A tout à l'heure, Nico, le football également, 14e journée de Ligue 2 entre Metz et Saint-Etienne. Bonsoir, Patrick Muller.
Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, tout le monde. 0-0 après un peu plus de 4 minutes dans cette rencontre entre Metz et Saint-Etienne. Deux équipes en difficulté puisque les Messins sont 13e avec simplement un point d'avance sur la zone rouge. Et les Stéphanois, eux, qui sont en avant-dernière position à 3 points du premier non relégable. Les Messins qui n'ont remporté qu'un seul de leurs 7 derniers matchs. Les Stéphanois qui restent sur une élimination face à Rodez en Coupe de France à Valon. Peut-être chaud à suivre avec ce centre de Moussaba côté Messin. Il va rentrer dans la surface, il va tenter d'ajuster un centre côté droit, du pied droit, pardonnez-moi, et ce ballon finalement qui va sortir en touche. Plutôt un bon début de rencontre Messin pour l'instant. 0-0 toujours entre les deux équipes après 5 minutes dans cette rencontre.
Félicien est avec nous dans Génération After. Salut Félicien.
Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde.
Sois le bienvenu. Vos prénoms, Félicien.
Ah ouais, Félicien, c'est beau. Merci Fred.
Ah ouais. Félicien, merci, tu as une question à poser à Julien Laurence.
Alors j'ai surtout une question à poser au frérot.
Ah oui, bien sûr frérot.
Ah mon frérot Julien Laurence. Ouais, je voulais faire un petit bilan de la première partie de saison de Première Ligue. Je trouve qu'il y a pas mal de déceptions et peu de satisfaction, notamment au niveau du niveau de jeu. Je pense à Brentford, Leicester, West Ham, Southampton par exemple, et puis les gros Tottenham, Liverpool, Chelsea, United qui proposent un niveau de jeu assez assez maigre. Et je voulais savoir ce que toi t'en pensais et ce qui se disait en Angleterre en fait.
Ouais, c'est vachement intéressant, je trouve, ta question, enfin, ou ton débat rapidement. Ce serait bien si on avait plus de temps, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Mais je suis d'accord avec toi déjà. C'est marrant parce qu'en début de saison, je pensais, et j'en parlais avec Michael Cox. Je sais pas si tu connais Michael Cox, il fait beaucoup de travail sur la tactique ici en Angleterre. C'est quelqu'un qui est très respecté ici et qui pensait que peut-être cette saison, on n'aurait aucune équipe faible en fait. Que ce serait une première ligue sans club faible. Si tu veux, on avait été pas mal impressionnés par ce qu'on avait vu pendant la pré-saison, pendant la préparation, notamment chez les promus et tout ça. Et au final, je suis un peu déçu comme toi. Je suis déçu par les gros déjà. Hier, j'étais à Tottenham, Liverpool. Même si c'est très intense, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de déchets, quand tu vois le match d'Arsenal contre Chelsea, Arsenal est très fort, mais Chelsea est très médiocre. Et c'est vrai qu'il y a, je trouve qu'il y a un manque de constance et de consistance dans les performances, notamment des gros. Newcastle, c'est la belle satisfaction, forcément. Fulham dans un sens aussi un petit peu. Et Brighton avec Deserbi, voilà, sixième, ça se tient, c'est bien. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je pensais qu'on verrait une meilleure saison pour l'instant que ce qu'on a connu pour l'instant.
Voilà Félicien pour la réponse de Julien. Est-ce qu'elle te convient ?
Oui, je suis dans l'ensemble d'accord avec lui.
Johan ?
Non, juste pour ajouter que je partage l'analyse qui est faite sur la Première Ligue, sur la Serie A. Et je ne sais pas quelles sont les causes et conséquences, j'essaye de réfléchir aussi.
La Coupe du Monde qui arrive.
Je peut-être. Pense qu'il y a eu une question aussi sur l'inconstance des gros. Il y a des équipes qui ont une semaine pour se préparer. Et des équipes avec des joueurs qui ont zéro moment pour souffler.
Et moi, je le vois en Italie, quand les grosses équipes affrontent l'Udinese et l'Hellas Vérone, etc. C'est très, très compliqué parce que c'est des équipes qui mettent beaucoup d'impact physique, etc. Et les équipes qui jouent la Ligue des Champions ont beaucoup de mal contre ce type d'équipe-là. Alors, c'est sans doute une petite explication, il y en a sans doute d'autres. Mais le constat qui est fait par Félicien et Julien, je fais le même en Serie A cette saison.
Merci Félicien, on a fait le 32-16.
Ouais, si je pouvais juste ajouter, vas-y. Moi quand je m'étais projeté en fait sur cette saison, je pensais justement que les petits allaient surperformer en fait du fait qu'ils aient moins de joueurs qui susceptibles d'aller au mondial, donc moins à même à s'économiser. Mais c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez bizarre. Et puis moi je trouve que aussi il y a une faillite des recrues étrangères en première ligue. Je pense à Casemiro, à Darwin, à Koulibaly encore, ou Anthony, voilà, qui ne sont pas au rendez-vous.
Merci Félicien. Il faudra en débattre un plus longuement, comme l'a dit Julien tout à l'heure, dans un prochain Génération After. Drôle de dame. Bonne soirée à toi Félicien. À très vite. Thomas est avec nous, supporter du Werder. Salut Thomas. Thomas, salut. Pardon. Thomas.
Oui, oui, c'est Thomas, bah oui.
Désolé, bien sûr.
Thomas Schaff.
Franco-allemand.
Franco-allemand, Thomas. Polo, t'écoute.
Oui, bonjour Polo. Alors j'avais une question, peut-être tu me vois venir en tant que supporter du Werder. On parle beaucoup entre nous en Allemagne ou en France pour les supporters du Werder de Füllkrug, qui fait une super saison, qui est actuellement le meilleur buteur et surtout d'une grosse pénurie pour la Mannschaft en attaquant. Il a un profil assez unique que, en tout cas, Flick n'a pas. Est-ce que tu penses que Flick pourrait être capable de sélectionner un joueur qui a zéro sélection pour la Coupe du Monde, est-ce que ça peut être la grosse surprise?
Bon, déjà, si tu l'as dit, alors il n'est pas le meilleur buteur de Bundesliga, il est le meilleur buteur du club, hein, ça fait quelques saisons qu'il les bute. C'est vrai que pendant longtemps, c'est ce que moi j'appelle des joueurs 1.5, c'est-à-dire c'est des joueurs qui font leur carrière et en seconde division et en Bundesliga. Il avait bien marché à l'époque à Hanovre, etc. Et c'est vrai qu'en tant que promu, bah, c'est une surprise de voir Brême si haut au classement, et il le doit notamment à Niklas Füllkrug. Tu as vu qu'il est sorti samedi de la rencontre, il est sorti du terrain parce qu'il avait un petit problème de dos. Apparemment c'est pas bien grave. Ouais, moi je suis intimement persuadé qu'il va le prendre, non pas pour le faire jouer titulaire, ou alors on aurait une énorme surprise, c'est-à-dire une Mannschaft qui d'un seul coup se remet à jouer avec un attaquant de pointe, ce qui serait une énorme surprise par rapport au titulaire habituel. Mais le fait que Werner soit out pour la Coupe du Monde, bah, libère mathématiquement une place, et ce serait, il y a quand même un certain pressing en Allemagne, une certaine lobby pour qu'il parte, parce que la question du fait, on peut faire des débats entre nous, est-ce qu'il faut des neufs, des faux neufs, c'est quand même mieux quand t'as un neuf qui sait mettre un coup de boule à 5 minutes de la fin pour aller remporter une rencontre, quoi. Et au-delà de la beauté du sport, etc. Et moi je pense qu'il va le prendre, ouais, j'en suis persuadé.
Thomas, merci d'avoir appelé.
Merci pour ma première, je suis très content de
C'était un plaisir de t'accueillir. Il y aura une deuxième, une troisième, j'espère.
Une première réussie, hein, Thomas. Hein.
Est-ce que j'ai 15 minutes, est-ce que j'ai 15 secondes juste pour.
Bien sûr.
Bah, je voudrais faire une dédicace à, je pense, mes frères qui vont m'écouter demain en podcast. Et puis aussi à mon école de journalisme, le PJT. Bonjour à tout le monde.
Waouh, c'est où?
On est à Tours, nous, le PJT.
Tours. Ah, c'est une bonne école, en plus reconnue, je crois.
C'est là où j'étais, Thomas.
C'est l'UT de Tours, c'est ça?
Exactement. L'ancien UT. Enfin, voilà, le nouveau, la nouvelle version de l'ancien UT, j'imagine.
C'est ça.
Bah, c'est une bonne école de journalisme. Exactement.
Très bon, c'est les meilleurs, Thomas.
Elle a notamment formé Julien Laurence, exactement.
Exactement.
C'est pas la meilleure, hein, non plus. Il y a le SJ Lille, il y a le CSJ Parc, bref.
Ah non, mais c'est meilleur, c'est meilleur les UT.
Oui, UT, oui.
Bah, c'est plus
mélangé. Et en plus, c'est gratuit.
Culturellement, socialement, c'est beaucoup plus mélangé dans les UT que dans les grandes écoles.
Merci Thomas, bonne chance donc pour tes études, hein, et on t'accueille quand tu veux à RMC. Voilà les gars pour les questions des auditeurs. Dans un instant, on va parler notamment d'Arsenal, du Napoli. C'est là que s'est baladé, c'est un peu excessif, mais qui a battu l'Atalanta chez elle, deuxième de série à 2-1 encore une fois. Mais d'abord les directs, le handball, l'euro féminin, le match France-Roumanie sous les yeux de Nico Pollorsi. Nico, où en est-on?
Il reste 7 minutes 30 dans cette première mi-temps et les Françaises sont bien dans leur match. Elles mènent de 2 buts, 11 à 9. Il y a une joueuse qui fait énormément de bien, c'est Orlane Kanor, la grande arrière française qui fait parler son bras à longue distance. Et Cléopâtre Darleux qui commence à sortir des ballons dans le but, mais en face, ça reste très costaud. On a eu 4 buts d'avance et on est en train de perdre un petit peu pied. Ballon pour les Françaises avec une nouvelle fois Orlane Kanor qui va gagner grâce à Zahadi. Le shoot de Zahadi, oui, le shoot parfait de grâce à Zahadi. Plus 3 pour la France, 12 à 9.
Et puis le foot également, Metz-Saint-Etienne, Patrick Muller. Et
c'est la 12e minute à Saint-Symphorien, 0-0 toujours entre les deux équipes, malgré cette grosse situation pour le FC Metz tout à l'heure avec ce centre côté droit de Anthony Moussaba pour la tête d'Ablaye Jallo qui n'arrive pas à ajuster sa tête piquée du haut de son 1m63. Hein. Allez, on va dire que c'est une circonstance atténuante. En tout cas, ça illustre à la fois les difficultés en termes de réalisme côté messin et à la fois qu'ils font un bon début de rencontre, ceci étant les joueurs de la Slobologne. Mais toujours ce score nul et vierge 0-0 entre Metz et Saint-Etienne après 13 minutes.
La génération After dans un instant, la suite sur RMC 20h58. À tout de suite.